Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Capuano, Clément Salzar, Arjuna Andrade, Isot Sikar et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Une nouvelle semaine s'offre à nous et c'est à la question des transports au cœur de l'actualité qu'elle sera consacrée. Depuis les origines de l'humanité et plus encore depuis l'invention de la roue en 3000 avant Jésus-Christ, les hommes et les marchandises n'ont cessé de circuler. Les chemins sont devenus des routes, puis des lignes de chemin de fer et enfin des autoroutes. Et la mobilité apparaît aujourd'hui comme un mantra politique et économique qui soulève aussi de nombreuses questions sociales. Demain, on s'intéressera au rôle des transports dans la lutte contre les fractures territoriales. Mercredi, nous examinerons à la loupe la nouvelle carte des déplacements du Grand Paris. Jeudi, enfin, nous embarquerons dans la grande aventure du fret ferroviaire. Mais d'abord, les transports au cœur des révolutions industrielles, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous allons retracer l'histoire moderne des transports en compagnie d'Anne Ponchon, professeure d'histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'économie des transports à l'époque pré-industrielle, en compagnie également de Mathieu Flonneau, historien de l'automobilisme, auteur notamment du livre « De l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité » paru aux presses universitaires de Rennes. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
C'était une vieille diligence d'autrefois, capitonnée à l'ancienne mode de drap gros bleu tout fané, avec ces énormes pompons de laine rêche qui, après quelques heures de route, finissent par vous faire des moxas dans le dos. Tartarin de Tarascon avait un coin de la rotonde. Il s'y installa de son mieux, et, en attendant de respirer les émanations musquées des grands félins d'Afrique, le héros dut se contenter de cette bonne vieille odeur de diligence. Bizarrement composé de 1000 odeurs, hommes, chevaux, femmes et cuir, victuailles et paille moisie. Il y avait de tout un peu dans cette rotonde. Un trappiste, des marchands juifs, deux cocottes qui rejoignaient leur corps, le troisième hussard, un photographe d'Orléansville. Mais si charmante et variée que fût la compagnie, le Tarasconnais n'était pas en train de causer et resta là tout pensif. Le bras passé dans la brassière avec ses carabines entre les genoux. Peu à peu, la nuit tomba. Le conducteur alluma ses lanternes. La diligence rouillée sautait en criant sur ses vieux ressorts. Les chevaux trottaient, les grelots tintaient. De temps en temps, là-haut, sous la bâche de l'impérial, un terrible bruit de ferraille. C'était le matériel de guerre. Tartarin de Tarascon, aux trois quarts assoupi, resta un moment à regarder les voyageurs comiquement secoués par les chaos et dansant devant lui comme des ombres falotes, puis ses yeux s'obscurcirent, sa pensée se voila, et il n'entendit plus que très vaguement geindre les cieux des roues et les flancs de la diligence qui se plaignaient.
Bonjour Anne Conchon et Mathieu Flonneau.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous venons d'entendre un extrait de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, publié en 1872. Le 19e siècle, c'est une période essentielle dans l'histoire des transports, puisqu'il incarne notamment ce passage, Anne Conchon, de la diligence au chemin de fer qui va bousculer le rapport au temps et à l'espace.
Oui, ce que je retiens de cet extrait, c'est d'abord effectivement des conditions de circulation qui sont typiquement celles de l'Ancien Régime et du XVIIIe siècle, c'est-à-dire effectivement des ressorts de voitures qui sont particulièrement dures, un inconfort qui tient encore au XVIIIe siècle à la circulation de ces diligences sur des pavés qui secouent considérablement les voitures. Et par ailleurs, cet extrait est intéressant non seulement sur un plan technique de circulation, mais aussi parce qu'il rend compte d'une expérience sensorielle de circulation, l'attention aux odeurs, une attention tout à fait fine aussi aux profils sociaux des utilisateurs de ces voitures, qui ne dépareille absolument pas de ce qui existait pour le XVIIIe siècle. On a effectivement une autre dimension qui, pour le coup, introduit une rupture, qui est la possibilité de circuler de nuit avec cette allusion aux lanternes qu'on allume, alors que sous l'Ancien Régime, la circulation de nuit est extrêmement contrôlée, sinon interdite.
Vous parlez de cette différence, de cette différente perception. Pour l'historien Jules Michelet, au début du 19e siècle, les diligences sont, je cite, « la seule façon de voyager avec profit. Depuis qu'on a créé les chemins de fer, écrit-il, on passe, on s'éblouit, on a le vertige et tout échappe. » Mathieu Flonneau, on voit que cette perception du temps, de l'espace, elle évolue avec l'arrivée du chemin de fer.
Alors la perception va évoluer effectivement, le mot de disruption qui est à la mode en cette ce début de 21e siècle est une réalité aussi au 19e siècle. Sur l'extrait l'exégèse qu'on a fait à Conchon est complète. On est au cœur de ce qu'est véritablement la mobilité, c'est-à-dire pas simplement un déplacement, c'est-à-dire une expérience, c'est-à-dire un mélange de données sociales, politiques, culturelles bien évidemment et puis naturellement techniques parce que on est prisonnier d'une civilisation équestre qui est millénaire, qui connaît aux marges, mais ces marges sont capitales, des améliorations, des accélérations indiscutablement, et Anne Conchon le sait bien, on va accélérer très rapidement au XVIIIe siècle d'une trentaine de pourcents les voyages, rien qu'en optimisant le mode équestre. Mais évidemment, lorsque l'on va passer à la machine à vapeur pour des questions de locomotion, une rupture, et une rupture qualitative et quantitative va se faire.
Alors avant d'en venir au détail des évolutions des transports, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire d'abord, Anne Conchon, que l'histoire moderne des transports, c'est aussi une histoire du libre-échange, même s'il est difficile de rendre compte peut-être de l'évolution globale des transports, parce que ce que vous écrivez, c'est que c'est quand même un marché très segmenté.
Oui, alors ce qui incontestablement caractérise la période qu'on pourrait qualifier de pré-industrielle avant l'avènement du chemin de fer, c'est un accroissement des circulations sur les différents modes. Circulation maritime, dont je ne sais pas si on en parlera plus précisément, circulation fluviale et circulation routière. Il y a incontestablement un essor des circulations qui est quelquefois difficile à mesurer pour l'historien en l'état des sources. Et incontestablement, cet essor des circulations accompagne une augmentation des échanges et sous-tend très largement la croissance économique du XVIIIe siècle.
Alors revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien, Anne Conchon, c'est le philosophe et mathématicien Blaise Pascal qui va inventer le principe des transports en commun en 1662. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça en quelques mots ?
Alors, cette histoire est bien connue, effectivement, cette invention des transports publics urbains, ce système de carrosses au cours du XVIIe siècle. Il est effectivement considéré comme l'inventeur, mais plus largement, je pense que son invention mérite d'être replacée dans un contexte de multiplication de privilèges qui caractérise Paris, mais aussi d'autres villes du royaume. Et ces privilèges accordent essentiellement à de grands aristocrates de la cour la possibilité d'organiser des services de transport urbain. La nourrice de Louis XIV en a très largement profité. Et donc on a effectivement des segments qui sont délimités territorialement et qui permettent de transporter les Parisiens, notamment, au cours de l'Ancien Régime.
Il y a alors à peu près 500 000 habitants dans la capitale. Et effectivement, Blaise Pascal obtient de Louis XIV de mettre en place ce service qui est composé de 5 lignes de carrosses dans Paris. Mais c'est une expérience qui ne va pas durer bien longtemps. Le service disparaît 15 ans plus tard. Et il faudra ensuite attendre le 19e siècle pour que véritablement des transports publics se mettent en place.
Alors, entre-temps, entre le 19e siècle et avant cela l'expérience de Blaise Pascal, il y a toute une série de services de transport, de carrosses publiques dans la capitale, de fiacres dirons-nous, qui présentent deux modalités, les carrosses de remise et les carrosses de place, avec une logistique de stationnement qui est très très bien connue pour la fin du XVIIe et surtout le XVIIIe siècle.
Anne Conchon, vous vous êtes beaucoup intéressée aux infrastructures de transport, donc entre la fin du XVIIe siècle et le début du XIXe. C'est alors une façon pour l'État moderne d'intervenir donc dans la vie économique et de promouvoir l'essor des échanges marchands ?
Incontestablement. Si on fait un clin d'œil avec effectivement la loi d'orientation sur les mobilités aujourd'hui, où l'État est considéré à la fois dans cette loi comme un État bâtisseur, régulateur et organisateur, cette fonction de financement des infrastructures est absolument essentielle. L'État ayant un rôle non seulement dans le choix de financement, ou dans les choix de financement, est-ce qu'on finance par l'impôt ou est-ce qu'on choisit plutôt une tarification à l'usage, et aussi un rôle essentiel dans l'allocation des fonds en fonction de catégories d'actions qui peuvent être de la construction, de la réparation ou de l'entretien. Mais c'est, je terminerai là-dessus, c'est une des modalités d'action de l'État. Il a bien d'autres fonctions.
Mathieu Flonneau, sur ce rôle de l'État dans la mise en place des infrastructures de transport dès le XVIIe siècle.
L'État moderne, effectivement, se construit aussi sur une mobilité rendue plus efficiente, sur un territoire que l'on cherche à mieux maîtriser, mais ce que l'on peut aussi dégager en suggérant d'autres exemples, c'est évidemment le coût, la question du coût, qui a toujours été et qui reste aujourd'hui évidemment une préoccupation majeure. Montaigne, qui est un voyageur à cheval isolé, lui dit que son tour d'Europe lui a coûté une propriété dans le Bordelais. Et donc c'est quelque chose qui est évidemment fondamentalement très onéreux de voyager. Daniel Roche l'a très bien montré dans ses différents ouvrages sur la culture équestre de l'Occident. Stendhal, lorsqu'il fait ses voyages en Italie et qu'il invente le tourisme, Stendhal est diplomate, Stendhal vit là véritablement une expérience qui est pas unique évidemment, mais très peu reproductible et en aucun cas démocratique. Et la véritable rupture de la civilisation industrielle, c'est pourquoi l'extrait que vous avez cité tout à l'heure était intéressant, parce que ça va être la juxtaposition sur le chemin des mobilités, si j'ose dire, et bien de ces différentes classes sociales qui vont enfin prendre la route et prendre des transports en commun éventuellement. Alors ne faisons aucun anachronisme, parce que évidemment les carrosses à 5 sols de Blaise Pascal, dans le principe, sont intéressants à analyser, mais n'ont que peu de choses à voir avec la Compagnie Générale des Omnibus de 1855 qui accompagne l'exposition universelle parisienne. Enfin, on parle quand même de villes et de demandes de mobilité qui ne sont pas véritablement à mettre sur le même pied. Mais en revanche, la question du coût, elle, est récurrente et le lien avec la loi d'orientation sur les mobilités qui fait d'actualité et présentée aujourd'hui est naturellement à faire.
On va y revenir, mais d'abord restons encore un peu sur le 18e siècle. Anne Conchon, l'État encourage alors la construction et l'entretien d'infrastructures routières, fluviales et maritimes avec différents types de financement.
Oui, il y a incontestablement un effort financier qui est consenti avec une différenciation dans le temps, c'est-à-dire que initialement le département des ponts et chaussées a en charge par définition les ponts et chaussées, donc l'essentiel de la politique de financement va être centré sur la construction et l'aménagement de nouvelles infrastructures routières.
Les ponts et chaussées qui sont créés en 1716.
Tout à fait. Le département existe, mais il a effectivement une ambition politique renouvelée à partir de cette date-là et qui correspond par ailleurs à la création de l'école des ingénieurs qui sous-tend très largement cette politique très ambitieuse de développement des infrastructures routières. Et à partir des années 1760, Éric Zulman a très bien montré, à propos des infrastructures fluviales, que la politique monarchique va de plus en plus développer une politique de financement en direction de la navigation intérieure.
Pour quelles raisons ? Parce que vous dites, par exemple, la majorité des auteurs de l'époque plaident en effet pour le développement de la navigation intérieure.
Alors, ils plaident pour justement développer des circulations qui préfèrent l'eau. Et notamment, je reviens sur ce qu'évoquait Mathieu Flonneau à l'instant, la question des coûts. Il y a toute une série de circulations de marchandises qui ne peuvent pas supporter un coût prohibitif qui est celui de la circulation routière. Les grains en font partie, mais il y a bien d'autres matériaux de construction qui circulent essentiellement par eau. Et l'ambition de l'État est aussi d'assurer un équilibre modal entre les circulations. Et l'accent ayant été mis prioritairement sur la circulation routière, il faut à un moment ou à un autre rétablir un relatif équilibre entre les modes de circulation. Et dans les années 1760, de la même façon, l'État développe une action extrêmement soutenue en direction des ports maritimes, puisqu'à partir de 1762, le département des ponts et chaussées récupère une quinzaine de ports maritimes à entretenir.
Alors ce qui est intéressant et qu'on entend ici, Mathieu Flonneau, c'est que la question du choix des modes de transport et de leur complémentarité est déjà présente sous l'Ancien Régime. On sait que c'est une question évidemment très présente dans l'actualité.
Oui, oui, la coordination est déjà entrevue, envisagée. Bon, alors avec, là je pense, et je parle sous le contrôle d'Anne, évidemment, il y a des éléments d'optimisation segmentée, on va dire. Il n'y a pas véritablement l'idée de rendre absolument, véritablement au moindre coût, certaines transformations de mobilité. Je veux dire par là que il y a des questions de pouvoir, il y a des questions de prébendes qui sont données aux uns et aux autres, il y a des questions sur le canal du Midi et autres, qui touche là, non pas simplement un raisonnement d'efficacité économique, il y a énormément de péages. On parle d'éléments là qui sont des fromages, pourrait-on dire, pour certains, pour s'enrichir. Et donc, la question de l'optimisation technique est relative. On n'est pas encore dans une rivalité véritablement industrielle, me semble-t-il. Mais l'on peut ajouter une chose, et évidemment, l'école des ponts et chaussées qui a été évoquée, et c'est une nécessité absolue qui donne cette excellence française qui va être généralisée sur le même modèle dans d'autres pays, en Italie et bien ailleurs, c'est l'école des ponts et des chaussées. Et récemment, l'école des ponts n'est devenue que l'école des ponts. Et on oubliait les chaussées. Et je dirais que par un retour de réel, finalement, la situation contemporaine aujourd'hui de ce retour de la route et de la rugosité de la route, il revient là dans l'actualité.
Alors on va en reparler bien sûr, mais en même temps il faut dire que au XVIIIe siècle, Anne Conchon se met aussi en place une série de dispositions réglementaires qui vont fonder la législation routière.
Oui, tout à fait. À partir très précocement d'ailleurs, il y a toute une série de dispositions qui sont engagées dès la fin du XVIIe siècle et qui vont continuellement être réactivées tout au long du XVIIIe siècle pour véritablement définir un ordre de circulation et les modalités d'usage de la route. Alors, pour différentes raisons, mais en grande partie pour des raisons financières, l'objectif était de policer les circulations routières de façon à minimiser les dégâts causés par le poids des chargements ou l'incision causée par les routes. Donc, l'objectif est véritablement d'économiser sur les budgets de maintenance, d'entretien des infrastructures par toute une série de pénalités mises en place ou de réglementations visant à limiter les cargaisons et les dispositifs techniques ou l'aménagement technique des voitures.
Et alors, pendant la Révolution, ce qui est intéressant, c'est que les voies de communication vont être vues comme, je cite, les ressorts de la puissance, en raison notamment de l'importance stratégique des routes pour les convois militaires. On voit qu'il y a une vision très très politique qui apparaît ici, Anne Conchon.
Alors, je dirais que c'est pas propre à la Révolution. Le développement des infrastructures de transport est prioritairement le développement des infrastructures routières est d'abord considéré au regard d'enjeux stratégiques et politiques. Et secondairement, alors ça devient effectivement un élément essentiel pour la croissance économique du XVIIIe siècle, mais la question de l'acheminement des troupes et le contrôle du territoire fait de la route un enjeu politique bien avant la Révolution. Et la question de la défense des frontières ou la connexion avec les pays conquis sous la Révolution et à partir du Directoire vont accentuer encore plus effectivement cette logique politique.
Et à ce moment-là, on va aussi se recentrer beaucoup sur les liaisons intérieures. Et en cela, on peut se demander si effectivement il y a une continuité tout au long de ce XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution ou s'il y a une politique spécifique des transports au moment de la Révolution française.
Alors la réponse est compliquée, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de continuité évidents en matière de politique de transport, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue de recherche des ressources de financement. Ce qu'on voit très bien, c'est effectivement un budget de l'État qui ne suffit pas pour voir aux constructions et l'entretien des routes et une recherche aussi bien sous l'Ancien Régime que sous la Révolution de diversification des sources de financement. Ce qui introduit incontestablement une rupture pendant la Révolution, c'est une diminution des crédits alloués à une politique de transport et de développement des infrastructures, en gros jusqu'en 1800. Et à nouveau, le poids des dépenses militaires fait qu'à partir de 1813, on retombe dans une logique de diminution des crédits. Donc on a une fluctuation qui dépend moins du régime politique que des contraintes budgétaires dictées en grande partie par la conjoncture militaire.
Et la volonté étatique en matière de transport n'est pas dénuée de considérations sociales, oui. Comme le montre la proposition de Charles Barbaroux en 1793. Il veut construire un vaste ensemble de canaux afin de fournir aussi du travail travail, aux chômeurs, aux soldats démobilisés, aux vagabonds. Il y a aussi cette préoccupation sociale.
Alors cette logique sociale, elle est caractéristique de la période révolutionnaire, mais elle existe également à la fin de l'Ancien Régime. L'idée étant de développer des grands travaux pour fournir du travail dans le cadre des ateliers de charité, qui renvoie à l'exemple que vous donniez. Mais plus largement, il y a une vraie réflexion aussi, si on parle d'équité sociale, sur qui doit prendre en charge aussi le financement des infrastructures. Et c'est un gros débat qui est ouvert dès la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que ce sont les contribuables ou est-ce que ce sont les usagers qui doivent financer les infrastructures? Donc la question sociale autour du financement ou de la mise en œuvre des politiques de transport est extrêmement large.
Ce qu'on peut dire, en tout cas, Mathieu Flonneau, c'est que c'est peut-être la révolution qui va parachever cette logique d'un réseau unifiant le territoire.
La mobilité devient une chose publique, indiscutablement, et surtout avec une dimension de libération. C'est-à-dire qu'il y a cette équivalence qui est quasiment donnée, aussi reprise par le titre de votre émission, « Mobilité, j'écris ton nom », il y a de la liberté derrière. Et c'est une rupture, c'est une conquête sociale et dans tous les domaines. Je veux dire qu'évidemment, la mobilité individuelle est convoquée dans le débat, mais par exemple, les autres instruments de mobilité, de communication, sont aussi mobilisés. Par exemple, les pigeons voyageurs. Le droit d'élever des pigeons, ça peut vous paraître dérisoire, mais c'était un droit seigneurial. Et donc à partir du moment où il y a cette conquête, et là c'est dans une longue durée et dans une ethnographie un peu fine de certaines régions de France, par exemple, pourquoi les mineurs sont-ils si attachés à ce que l'on appelle les coulonneux, c'est-à-dire à l'élevage de pigeons voyageurs et de colombes? Eh bien parce qu'il y a une conquête révolutionnaire qui se trouve derrière. Et cette libération des mobilités, cette conquête de la vitesse de libération politique avant d'être une conquête de vitesse matérielle, eh bien, elle intervient à cette charnière de la fin du XIXe siècle et elle concrétise l'esprit des Lumières. Parce que là, la liberté devient positive, pratique.
Et l'idée, l'objectif, c'est aussi, au cours du XVIIIe siècle, que le développement des transports marchands favorise l'égalisation des prix sur le territoire et leur diminution, Anne Conchon.
Oui, alors la question du prix des mobilités est un vaste débat. C'est une question d'un point de vue historique pour les mobilités anciennes avant l'avènement du chemin de fer qui est extrêmement difficile à mesurer et qui pourtant est absolument essentiel pour mesurer le degré d'intégration du marché intérieur.
Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est que tout au long du 19e siècle, ensuite, le transport sur l'eau va se mécaniser. C'est en France, sur la Saône, que navigue le premier bateau à vapeur construit en 1783 par Jouffroy d'Aban. Mais la vapeur ne va prendre le dessus sur la voile seulement un siècle plus tard, Mathieu Flonneau. C'est vraiment à la fin du 19e siècle que la vapeur prendra le dessus.
Alors, on est clairement dans des phénomènes de transition et dans la rémanence et la permanence d'anciennes technologies qui demeurent pertinentes. Un autre exemple de basculement que l'on présente parfois comme soudain, c'est celui de la motorisation individuelle qui substituerait aux tractions animales et au cheval tout plus particulièrement. Mais c'est en réalité deux générations quasiment qu'il faut pour absorber le choc de l'ancien, comme l'historien David Edgerton l'a écrit, c'est-à-dire que il y a une permanence d'anciennes solutions techniques qui parfois obtiennent un optima et qui sont supplantés par d'autres. Mais ce ne sont pas les mêmes qui les utilisent, ce ne sont pas les mêmes lobbies, les mêmes intérêts économiques qui les favorisent. Donc oui, il y a des décalages temporels, il y a un tuilage des transitions de ce point de vue-là qui est assez intéressant à noter.
Et le 19e siècle, c'est aussi bien sûr le siècle du chemin de fer, comme on l'évoquait en début d'émission. Je vous propose d'écouter la description par Victor Hugo de ce qu'il appelle le cheval de fer.
Il faut beaucoup d'efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une bête véritable. On l'entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route. Il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s'emporte. Il jette tout le long de la route une fiente de charbons ardents et une urine d'eau bouillante. D'énormes raquettes d'étincelles jaillissent à tout moment de ses roues ou de ses pieds, comme tu voudras. Et son haleine s'en va sur vos têtes en beaux nuages de fumée blanche qui se déchirent aux arbres de la route. Après mon retour, il était nuit. Notre remorqueur a passé près de moi dans l'ombre se rendant à son écurie. L'illusion était complète. On l'entendait gémir dans son tourbillon de flammes et de fumée, comme un cheval harassé.
un extrait d'une lettre de Victor Hugo datée du 22 août 1837, lu ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Pendant longtemps, ce qu'on entend ici, c'est que le train est véritablement associé à un animal dans l'imaginaire de l'époque.
Ah, Mathieu Flonneau. Il y a l'effet de sidération, il y a l'effet machinique, effectivement, qui trouble beaucoup. L'animal souffle, effectivement. Il a fasciné aussi, quelques décennies plus tard, les peintres impressionnistes. Il y a toujours une étrangeté, une magnifique étrangeté. Et l'idée prométhéenne, assez rapide au XIXe siècle, qu'il s'agit de la maîtriser, évidemment aussi, éventuellement, dans une logique alors saint-simonienne, de choix, de l'extension infinie des mobilités, avec une foi dans l'avenir. On aura l'occasion probablement de la réévoquer. Mais ces personnalités sont convaincues que l'âge d'or est devant, et en aucun cas derrière, et que cela va s'accompagner d'une transformation positive des territoires. Il y a une forme de naïveté touchante, et on la retrouve quasiment à chaque innovation technologique. Et le chemin de fer, naturellement, est de ce point de vue-là quelque chose qui est très spectaculaire. 1837, Victor Hugo, bon, on est 10 ans avant, ou plutôt 10 ans après l'introduction des premières technologies, notamment en France. Ceci vient de Grande-Bretagne, mais...
C'est la roquette de l'anglais Stephenson qui parvient à tirer un convoi de 13 tonnes à 25 km/h, une pointe à 25 km/h, c'est en 1829.
Oui, alors je dis, on va revenir au chemin de fer, mais les chemins de fer sont une chose, mais Fulton avec la vapeur appliquée à la navigation est peut-être encore plus spectaculaire pour par exemple les Américains qui vont unifier leur territoire, et ceci va frapper tous les voyageurs français qui les premiers s'y rendent. Alors il y aurait Chateaubriand à mentionner, mais aussi Alexis de Tocqueville, et Alexis de Tocqueville fait une équivalence très rapide entre mobilité et développement de la prospérité, et il voit que la manière dont le territoire américain qui à l'époque n'est que limité par le Mississippi avec les États intégrés dans la Confédération, mais dont ce territoire américain, qui est quand même déjà 5 ou 6 fois plus grand que le territoire français, est mieux administré. Parce que, eh bien, notamment, les bateaux à vapeur donnent des horaires fixes, donnent à l'économie cette confiance qui est une confiance nécessaire au capitalisme pour se développer. Et donc Tocqueville fait une équivalence assez spectaculaire que tous les Saint-Simoniens, et par exemple Michel Chevalier, qui est un ingénieur des mines qui vient juste après, va éprouver. Et la citation que j'ai esquissée tout à l'heure sur la liberté positive, pratique et effective que permet la mobilité, Chevalier la constate lorsqu'il se rend aux États-Unis d'Amérique juste après Tocqueville.
En France, les premières voies de chemin de fer relient d'abord Saint-Étienne à Rouen en 1832, puis Alais à Nîmes en 1833. À ce moment-là, c'est pour le transport du charbon, Mathieu Flonneau.
Oui, c'est ça. Alors, Saint-Étienne-Andrézieux, c'est la première ligne, effectivement, dédiée aux marchandises, en effet, puisque c'est la partie du fret qui va d'abord, quand même, le plus profiter de cela. La première ligne de plus de 100 km, c'est la ligne Paris-Orléans, le fameux PO.
Et il va y avoir ensuite, voilà, une ligne pour les voyageurs ouverte en 1837. Donc c'est la toute première ligne.
C'est Paris-Saint-Germain.
Paris-Saint-Germain-en-Laye.
Qui n'est pas qu'un club de foot.
Voilà. Et dans la seconde moitié du 19e siècle, donc ce qu'on constate, Anne Conchon, c'est que l'Europe et les États-Unis vont se couvrir de voies ferrées. Et c'est aussi l'apparition des premières lignes transcontinentales. Alors, il y a notamment le chemin de fer qui est à la fois animalisé, c'est ce qu'on disait à l'instant, mais il est aussi humanisé.
Et le réseau que vous évoquez, évidemment, en 1869, lorsqu'aux États-Unis, les deux compagnies pacifiques et atlantiques se réunissent, cela donne d'ailleurs lieu à un clou doré qui scelle les deux jonctions. Et c'est l'idée véritablement aussi que ce monde fini doit pouvoir être désormais exploité. Et on va muscler le territoire. Et le réseau, c'est cela. Et c'est très lié à l'idéologie saint-simonienne qui... alors, il y a des citations très célèbres d'Enfantin et d'autres, de Bazard, qui expliquent que le globe est tissé désormais de liens d'or, de vapeur et donc de richesse.
Alors, on parlait du coup de ce chemin de fer, comme je disais, animalisé, humanisé. Il l'est en tout cas humanisé dans le film de Jean Renoir, La Bête humaine, qui est inspiré du roman de Zola. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Voilà.
C'est drôle ce nom que vous lui donnez, la Liso.
Ah, bah quand on aime quelqu'un, on n'a pas idée de l'appeler avec un numéro, hein?
Je peux monter?
Vous allez vous salir.
Ah,
sérieux? Attendez. Faites attention, hein, parce que vous savez, ici, c'est plein d'huile et de charbon.
Oh, c'est chaud.
Ah, bah dites donc, elle en mange du charbon.
Oh, moi, je m'y perdrais dans tout ça.
Oh, vous savez, c'est une question d'habitude. Elle est belle, ma machine, hein. Vous savez que c'est peut-être la plus belle machine du réseau, la meilleure.
Vous l'aimez, votre machine?
On a eu tellement de choses ensemble.
Tellement de choses?
Ben oui, quoi, sur la ligne, on voit tout, on connaît tout.
Avec cette vitesse?
Ben, bien sûr.
Jean Gabin et Simone Simon dans La Bête humaine de Renoir. Le développement du chemin de fer tout au long du 19e siècle va bouleverser donc à la fois le transport des marchandises et bien sûr les habitudes des voyageurs, Mathieu Flonneau.
Complètement, et sur le modèle qui a été évoqué tout à l'heure, évidemment, d'un financement par l'État des infrastructures, et tout ce qui est superstructure va être laissé à des compagnies privées. Donc il faut rappeler que la SNCF n'est nationalisée qu'en 1937, dans la foulée des premières réformes du Front populaire, mais qu'auparavant, ce sont des compagnies privées qui vont investir, un peu sur le modèle des licences UMTS d'Internet et de différents médias qui sont venus après, et à la fois au Nord, la Compagnie du Nord, les Rothschild, très bien étudiés par François Caron, et puis le PO qu'on a signalé tout à l'heure, et le Paris-Lyon Méditerranée, qui conduit tout au Sud. Le territoire avec l'étoile de... Lagrange, en 1840, va connaître ainsi, à partir de Paris, eh bien, un rayonnement. C'est aussi un instrument
Baptiste
jacobin.
Le Grand.
Et donc, c'est aussi un instrument jacobin parce que vous allez avoir à Paris, ainsi que dans toutes les villes, l'apparition de quartiers-gares, mais à Paris, la convergence de ce territoire. Et véritablement, le chemin de fer avec les tables d'horaire va véritablement mettre au même rythme un pays qui désormais est aussi conçu comme une ressource économique. Et le temps est de l'argent, et de ce point de vue-là, nous héritons de la formule de Benjamin Franklin l'Américain, mais c'est quelque chose qui s'impose au temps industriel.
Anne Gonchon.
Oui, je voulais juste remettre en perspective effectivement le bouleversement ferroviaire dans l'accélération et l'augmentation des circulations, et en replaçant ça peut-être dans une longue durée et en le ramenant vers le XVIIIe siècle, qui correspond aussi à une demande de transport voyageurs qui augmentent. On sait effectivement qu'il y a une augmentation du nombre de voyageurs, une demande croissante qui se lie aussi par l'essor d'un genre éditorial qui va fleurir et se multiplier au 19e et au 20e siècle, qui est le guide de voyage. Donc il y a une demande très forte que démultiplie la capacité technique du chemin de fer.
On a souvent une conception selon laquelle l'aérien et le ferroviaire seraient en grande partie contrôlés par l'État sous une étroite tutelle étatique, et l'idée que la navigation intérieure et les transports routiers jouiraient d'une plus grande liberté avec beaucoup d'entreprises artisanales. Est-ce que cette conception peut se révéler vrai, Mathieu Flonneau?
Oui, je pense que pour l'essentiel, c'est exact. C'est d'ailleurs pourquoi il est très difficile d'appréhender par des lois générales le transport routier, encore aujourd'hui. Nous sommes là sur des infrastructures très lourdes pour le transfert maritime aussi, et puis le transport ferré, le transport aérien, je dirais que c'est encore une autre problématique, mais il y a un moment où la petite entreprise ne peut pas faire véritablement la survie des modes que vous avez évoqués.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini. Drive.
possess the things he made, and then never bothers to name, and no one can tell the truth, and no one can hide it from you.
C'était God Made the Automobiles d'Iron and Wine. Nous sommes toujours avec Anne Conchon et Mathieu Flonneau et nous poursuivons notre histoire moderne des transports. Alors à la fin du 19e siècle, commencent à apparaître les premières automobiles, Mathieu Flonneau, et cela après l'invention du moteur à combustion qui remonte à peu près à 1850.
Oui, alors les premiers brevets véritablement d'automobiles de la mare de Bouteville, 1884, le CNAM en conserve la trace, et puis progressivement la mise en série, modeste tout d'abord, Panhard et Levasseur en 1891, avec des motorisations allemandes, Daimler, et ce point est important parce que vous avez là deux trajectoires, deux pays fondateurs en la matière, la France et l'Allemagne. Simplement, l'écosystème s'est le plus développé en France, et donc j'ai pour habitude de dire que l'automobilisme, c'est-à-dire l'ensemble des usages de l'automobile qui dépasse de beaucoup le simple objet technique, est plutôt français. Pourquoi ? Eh bien, en raison notamment de tout ce que nous avons décrit jusqu'alors, c'est-à-dire en raison des ponts et chaussées, bref, en raison des routes, en raison d'un système qui est là préexistant et qui finalement a permis la renaissance de la route. Et cette période de la fin du 19e siècle, eh bien, voit à nouveau un basculement qui nous ramène à l'époque pré-chemin de fer et qui va ressusciter les campagnes. Et c'est perçu comme cela par les contemporains qui, de façon assez lucide, voient véritablement là un renouveau des petites liaisons. Et l'automobile, par sa plasticité, par sa flexibilité, par la diversité de ses usages, et donc naturellement pas que l'automobile individuelle qui est très minoritaire, mais l'automobile professionnelle, l'automobile, c'est-à-dire le car, c'est-à-dire le camion, va d'emblée gagner les campagnes. Et de ce point de vue-là, vous avez une vaste conversion, on passe d'une mode, à un mode de vie, et qui va devenir quelque chose de généralisé.
Ainsi, il existe quelques milliers d'automobiles en 1900, nous dites-vous, et il y en aura près de 2 millions en 1914. Donc on voit déjà un premier grand essor à cette période.
Oui, alors quantitativement c'est indiscutable, mais alors qualitativement la victoire est encore plus patente, c'est-à-dire que les espaces publics, on y reviendra peut-être, les routes naturellement sont reconfigurées, l'on va désormais macadamiser à tout va, on va véritablement mettre les routes au noir, les transformer, faire la lutte à la poussière, on va construire un écosystème technique radicalement nouveau.
Et les associations privées de conducteurs automobiles, comme les Automobile Clubs, vont jouer un rôle important, notamment dans la mise au point d'un nouveau code de la route qui entrera en vigueur en 1922.
Oui, et donc plusieurs initiatives locales dans les Vosges, à Paris aussi, un code de la rue précoce qui est envisagé dès 1910, bien différentes choses qui vont contribuer, et ceci est aussi très marquant, c'est-à-dire que l'on a l'image d'un libéralisme permanent sur ce mode, mais il n'en est rien. Le mode a tout de suite été réglementé, il y a eu les certificats de capacité. Alors,
Ce sont des clubs d'aristocrates et de grands bourgeois au départ, les clubs d'automobiles.
Oui, mais il y a très rapidement ce tournant démocratique des usages qui fait que l'automobile devient un mode qui agrège les compétences, qui s'ouvre, qui inclut les comportements, et ces aristocrates n'ont pas la conscience de faire une révolution qui à terme est démocratique et à court terme.
Alors écoutons Paul Berliet, c'est le fils de Marius Berliet, le fondateur de la dynastie du même nom, grand constructeur d'automobiles à la fin du 19e siècle.
Je crois qu'il faut faire une chose qui était essentielle, c'est répondre aux besoins du client. Mon père disait toujours qu'il n'avait pas voulu faire de voitures de course. Ce n'était pas des matériels avec une tête de cheval et un corps d'abeille, mais qui réalisaient des voitures qui satisfaisaient ses clients, qui pouvaient, avec ces voitures, avoir le minimum d'ennui et le maximum d'efficacité dans leur usage.
Désormais, Mathieu Flonneau, le secteur des transports s'adapte aux désirs des clients. On est vraiment face à l'essor aussi d'un transport individuel.
Oui, il y a une individuation des pratiques qui est indiscutable. Il y a un choc de vitesse, un nouveau. C'est-à-dire que, évidemment, les vitesses ferroviaires avaient été bouleversantes, y compris avec des retentissements médicaux, pardon. Mais la vitesse automobile permet, eh bien, l'exercice du libre arbitre. Donc tout de suite, il y a là un choc supplémentaire. Il y a l'ébriété qui peut gagner certains. Il y a les risques qui peuvent gagner d'autres. Il y a les courses sur route. Bientôt réglementé. Bref, c'est tout un système de vitesse nouveau et d'accélération de la société qui va toucher par ricochet, par ruissellement, eh bien, l'ensemble des couches sociales.
Et la période peut-être essentielle pour bien comprendre cet essor de l'automobile, ce sont les 30 Glorieuses sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé.
Ah bah, les 30 Glorieuses consacrent le rêve de l'automobilisme, mais la période essentielle pour la conversion, c'est avant. Et je dirais que pour revenir à l'avant Première Guerre mondiale, tout est joué. C'est-à-dire que la beauté des débuts, l'enthousiasme des premières fois est là. Et le goût transmis largement pendant la Première Guerre mondiale avec une société essentiellement masculine qui au front passe le permis de conduire sur des véhicules de transport lourd, eh bien ce goût va se répercuter dans le monde civil après coup.
Depuis quelques années, la notion de mobilité s'est invitée dans le débat public, la rhétorique des entreprises et les sciences sociales. Selon vous, Mathieu Flonneau, on commençait à aborder cette question un peu plus tôt dans l'émission, mais qu'est-ce que traduit cette évolution sémantique? Comment est-ce qu'on est passé d'une histoire des transports à une histoire de la mobilité?
Alors là, tous les travaux collectifs du groupe auquel Anne Conchon participe avec moi peuvent être mobilisés. L'ouvrage que vous avez cité tout à l'heure, l'ouvrage collectif de l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité, traduit bien ce basculement, effectivement. Nous ne sommes plus dans une histoire modale, nous ne sommes plus dans une histoire en silo, nous sommes sur des valeurs transmodales, transmodes, qui démodent justement une ancienne histoire plus limitée, qui bénéficiait finalement de la tradition de l'internalité technique. Là désormais, et aujourd'hui la grande convergence, le choc de mobilité auquel l'on assiste, la numérisation, l'ubérisation des transports, enfin tous les mots peuvent être agrégé à la problématique, transforme radicalement la donnée. Et la mobilité n'est pas une question de transport. Pas que. La mobilité aujourd'hui, c'est la grande question sociale. On le voit bien. C'est pourquoi, eh bien, l'écho et le référentiel gouvernemental aujourd'hui ne peut être que d'une loi d'orientation sur les mobilités, d'un essai de loi qui arrive enfin. On a mis une année à l'accoucher.
La question des modes de transport est en fait quelque sorte dépassée par cette nouvelle notion plus englobante de mobilité, Anne Conchon.
Alors, pour prolonger ce que disait à l'instant Mathieu Flonneau, effectivement, traditionnellement, l'histoire des transports, c'était un champ de recherche qui était strictement à la croisée de l'histoire technique et de l'histoire économique, et centrée véritablement sur la constitution progressive des réseaux et sur l'évolution technique des types de véhicules. Et au demeurant, cette évolution, elle est très limitée. Elle existe, mais elle est beaucoup plus limitée par rapport à ce qu'a décrit Mathieu à l'instant, après l'avènement du chemin de fer. Et en gros, la notion de mobilité, telle qu'on la voit aujourd'hui, travaillée par différentes sciences humaines, hein, l'histoire, mais aussi la sociologie, la géographie, pour ne citer que ces quelques disciplines, marque incontestablement un changement de paradigme. Et c'est véritablement, comme l'a dit Mathieu, c'est insister sur une approche globale qui croise toute une série de dimensions. La dimension technique, la dimension politique, des dimensions qui sont des dimensions socio-économiques, mais aussi la dimension culturelle qui me paraît extrêmement importante. Et pour reprendre ce qui a été dit à propos de la voiture est effectivement une invitation à la circulation individuelle et plus libre, mais elle est aussi un objet de mode dès le XVIIIe siècle. Donc il y a effectivement toute une relecture qui invite à décloisonner des histoires qui pendant des années, sinon des décennies, étaient une histoire ou des histoires très spécialisées par mode de transport, pour proposer une réflexion beaucoup plus large sur la mobilité à la fois des biens et des personnes et articuler des choses qui étaient autrefois très séparées.
Vous l'avez dit, l'histoire s'est beaucoup intéressée au développement économique, technique, lié à l'essor du rail au XIXe siècle. Et puis du côté des poètes et des écrivains, on s'est aussi beaucoup intéressé aux perceptions des voyageurs. Dans le deuxième tome de Sodome et Gomorre, publié en 1921, Marcel Proust décrit les sensations différentes qu'il éprouve dans le train et dans la voiture.
Il peut sembler que mon amour pour les féeriques voyages en chemin de fer aurait dû m'empêcher de partager l'émerveillement d'Albertine devant l'automobile qui mène même un malade là où il veut et empêche, comme je l'avais fait jusqu'ici, de considérer l'emplacement comme la marque individuelle l'essence sans succès d'année des beautés inamovibles. Non, l'automobile ne nous menait pas ainsi féeriquement dans une ville que nous voyons d'abord dans l'ensemble que résume son nom et avec les illusions du spectateur dans la salle. Mais, comme compensation d'une progression si familière, on a les tâtonnements même du chauffeur incertain de sa route, et revenant sur ses pas, les chassés croisés de la perspective faisant jouer un château aux quatre coins avec une colline, une église et la mer, pendant qu'on se rapproche de lui, bien qu'il se blottisse vainement sous sa feuillée séculaire. Ces cercles de plus en plus rapprochés que décrit l'automobile autour d'une ville fascinée qui fuit dans tous les sens pour échapper et sur laquelle finalement elle fonce tout droit, à pic, au fond de la vallée où elle reste gisante à terre. De sorte que cet emplacement, point unique que l'automobile semble avoir dépouillé du mystère des trains express, elle donne par contre l'impression de le découvrir, de le déterminer nous-mêmes comme avec un compas, de nous aider à sentir d'une main plus amoureusement exploratrice, avec une plus fine précision, la véritable géométrie, la belle mesure de la Terre.
Voilà, on parlait en début de cette émission de la différence de perception entre la diligence et le train. Cette fois, le héros découvre la ville sous un autre jour grâce à l'automobile, Mathieu Flonneau.
Oui, alors c'est l'un de mes extraits favoris que j'ai repris dans les cultures du volant, bien évidemment, parce que Marcel Proust est un amoureux du train. Mais il dit que l'automobile le surpasse dans les sensations. Alors sur le train, beaucoup décrit, et Wolfgang Schiffelsbusch l'a bien rapporté dans l'histoire des voyages en train, justement, ont transformé la perception et les sensations. Mais là, Marcel Proust, c'est quand même le grand écrivain de l'intime, je ne vous l'apprends pas, qui dans « À la recherche du temps perdu » reprend ce texte, qui est déjà publié en 1907 dans ses impressions de route en automobile. Et donc, précisément, cette belle mesure de la Terre, tout est dit. C'est-à-dire que c'est un nouveau moyen d'approcher les choses. Et il y a deux textes que l'on peut superposer à cet égard. Un texte de Gustave Flaubert, dans « Un cœur simple », où il exprime justement des voyages en Normandie. Et Marcel Proust les refait 30 années, 40 années plus tard. Et ces voyages ont changé parce que Marcel Proust fait, dans une après-midi, ce que Flaubert faisait finalement en 3-4 jours. Et donc, vous avez là un concentré, une accélération qui, pour les battements du cœur du narrateur proustien, est évidemment très important parce que cela rajoute à l'intime. Et l'automobilisme, c'est précisément cela. C'est de l'humain augmenté.
Alors, Anne Conchon.
Oui, je voulais juste rajouter effectivement que cette prise en charge et prise en compte du déplacement dans la littérature ne commence pas effectivement avec le 19e ou le 20e siècle. On a toute une série de témoignages sur l'expérience de la circulation, l'expérience de la lenteur ou inversement du désagrément du voyage, de Madame de Sévigné à Arthur Jung. Et il y a toute une littérature portant à la fois sur les transports interurbains, mais aussi sur les transports urbains. Et je pense notamment à un magnifique ouvrage qui est paru il y a quelques années, qui s'intitule « Le carrosse littéraire », et qui développe justement cette littérature du déplacement.
Alors en tout cas, près de 100 ans après l'apparition de Sodome et Gomorre, aujourd'hui on réfléchit aux transports du futur, des transports que l'on souhaite durables, avec le plus faible impact sur l'environnement possible. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce qui caractérise l'histoire des transports, c'est finalement cette transformation perpétuelle, Mathieu Flonneau.
Oui, mais avec beaucoup d'inertie, beaucoup d'effets de rugosité, comme je le disais. On ne peut pas révoquer d'anciens systèmes. Il faut composer avec. Et naturellement, aujourd'hui, ce qui est un véritable problème, voire peut-être une aporie de civilisation, de notre civilisation, c'est que le mur environnemental, les exigences de la lutte contre les gaz à effet de serre, les exigences de la lutte pour la préservation de l'environnement, eh bien, rencontrent finalement une impasse qui se traduit en termes financiers, en termes de coûts externes des transports. Et je vous renvoie pour cela à un excellent dossier de la revue Transport, Infrastructure et Mobilité qui est paru le mois précédent et qui finalement valide l'intégralité des débats et des agitations que l'on peut voir aujourd'hui. La grande difficulté de parvenir à un coût réel, car il n'y a pas qu'un raisonnement économique et rationnel, et la soutenabilité économique des transports est aussi une soutenabilité humaine. Donc il y a là des contradictions puissantes dont le mouvement des Gilets jaunes est une incarnation.
Vous parliez tout à l'heure, Anne Conchon, de la loi d'orientation sur les mobilités qui est effectivement présentée aujourd'hui devant le gouvernement. L'objectif affiché, c'est de combattre ces déserts de mobilité, c'est-à-dire ces territoires où la voiture est le seul moyen de déplacement. Et là, on rejoint cette idée selon laquelle la mobilité nous oblige à repenser les questions d'inégalité sociale et territoriale, Anne Conchon.
Alors effectivement, Je dirais que la question environnementale, elle n'a aucune actualité pour la période qui me préoccupe, c'est-à-dire sur les transports avant le chemin de fer. Mais un des éléments qui est essentiel dans la loi d'orientation sur les mobilités, c'est la question des territoires. Et on a effectivement, pour la France d'Ancien Régime, ou la France du XVIIIe siècle, si je considère l'Ancien Régime et la Révolution et l'Empire, un réseau qui est un réseau très déséquilibré, très centralisé, avec des inégalités territoriales de desserte qui opposent à l'évidence une France du Nord qui est très bien équipée, en route pavée, avec des routes en meilleur état par rapport à une France méridionale. Et en gros, effectivement, pour une activité qui est fondamentalement territoriale, qui est le transport, cette question de la capacité politique à résorber des inégalités territoriales me paraît donner une actualité à contrario à cet ancien régime de la mobilité.
Selon la ministre des Transports, Elisabeth Borne, la priorité est mise sur les trains du quotidien. Qu'est-ce que cette proposition vous inspire, Mathieu Flonneau, et cette idée de ce que voilà, est-ce qu'aujourd'hui la voiture est en quelque sorte dépassée par cette nécessité de revenir à des transports plus environnementaux?
Par rapport aux lois qui avaient été héritées des Grenelles de l'environnement, qui étaient tout à fait de l'ordre du wishful thinking, avec un espoir de report modal qui était irréaliste, avec des financements de lignes à grande vitesse qui étaient ruineux, eh bien, il y a deux options dans cette nouvelle loi qui va arriver. Certes, les transports du quotidien, mais aussi l'existant. Priorité à l'existant. Et ceci replace la route dans le jeu, the road is back, parce que précisément, le patrimoine ne doit pas être vu que comme quelque chose d'archaïque et d'historique, mais le patrimoine c'est l'actif, et donc le patrimoine c'est aussi quelque chose qui permet de donner vie au territoire. Et là, ce que l'on perçoit bien, et certains, je les entends, s'offusquent des simplismes présumés de l'opposition entre une France des gagnants et une France des perdants, mais elle existe, cette opposition, et elle se manifeste bruyamment.
Anne Conchon.
Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit, effectivement, la loi d'orientation sur les mobilités, elle réactive l'entretien de l'existant. Et quand on replace effectivement cette attention à l'entretien, la réparation du réseau existant, ça oblige l'historien à réfléchir effectivement à des logiques de financement qui, à un moment, notamment de contraction budgétaire, je pense à la fin du XVIIIe siècle, je pense à la fin de l'Empire, où on a effectivement des difficultés budgétaires qui invite l'État à redonner la priorité à l'entretien et à hiérarchiser ses dépenses en fonction des priorités à donner. Et la dernière chose, juste, c'est l'attention qui est donnée dans cette loi au dialogue entre les autorités centrales et les instances locales. Et je trouve que c'est une piste tout à fait intéressante pour remettre en perspective cette loi dans la longue durée.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir sur les annonces de la ministre des Transports sur la question des engins de déplacement personnel.
Mais oui, un jargon technopoétique qui renvoie en réalité aux trottinettes électriques, gyropodes, monoroues et autres inventions à propulsion électrique qui ont peu à peu colonisé nos rues dans un joyeux désordre. Le problème, c'est que cette flotte de véhicules non identifiés s'est déployée dans la ville sans qu'aucun encadrement ne soit prévu. On a vu ces engins fendre la foule, passer du trottoir à la route, slalomer entre les passants sans la moindre protection. Considérés juridiquement comme des piétons, ces véhicules à taille réduite sont pourtant capables d'atteindre les 30 km/h sans qu'il ne leur soit demandé de se ranger sur la chaussée. Obligé de réagir face à l'irruption de ce nouveau phénomène, le gouvernement a voulu, par ses annonces, mettre un terme à la période de flou et d'indistinction en cours. Un moment de tâtonnement urbain, de carnaval juridique, pendant lequel on pouvait croire que tout ce qui n'était pas interdit devait être permis.
Ces nouveaux engins devraient donc entrer dans une nouvelle catégorie du code de la route, Arjuna.
Oui, ils seront désormais encadrés par la loi d'orientation des mobilités dont vous parliez à l'instant, présentée aujourd'hui en Conseil des ministres et qui prévoit notamment de rabattre les trottinettes sur la route et les pistes cyclables. Mais au-delà de cette question, somme toute assez naturelle, de la reprise en main du politique sur les tentatives économiques et leurs conséquences, le surgissement de ces nouvelles formes de déplacement pose surtout la question du partage de l'espace public. Alors que vélos, voitures et trottinettes électriques sont désormais accessibles d'un geste du doigt sur le téléphone et que les start-up rivalisent d'innovation dans une course à la modernité qui place liberté et agilité comme valeurs cardinales, reste la question de la cohabitation de toutes ces mobilités sur un espace relativement rare. Si l'autopartage représente bien entendu une avancée par rapport à la voiture individuelle qui congestionne et pollue les villes, les alternatives proposées devraient néanmoins nous inciter à une réflexion sur l'usage de l'espace citadin.
D'autant que l'entretien de l'espace public n'est pas gratuit.
Non, comme l'explique l'économiste Frédéric Errand dans un article à la Tribune, ce qui nous semble l'évidence d'une facilité du quotidien, le tarmac et l'éclairage, l'entretien, le nettoyage, tout cela a un coût. Selon lui, il serait donc normal, comme envisage la maire de Paris, de réclamer, je cite, « une redevance liée à l'occupation de l'espace public pour les milliers de vélos déposés sans aucune autorisation et qui encombrent un espace particulièrement rare et cher dans le centre des métropoles. » Mais cette question du partage de l'espace ne passe pas seulement par une compensation financière des usages. La prolifération de ces engins en libre flottaison est venue nous rappeler avec force la question de la rareté de l'espace public.
Des réflexions ont ainsi été menées par plusieurs villes en France et à l'étranger pour résoudre cette question.
Absolument, la mairie de Paris s'interroge par exemple sur l'opportunité d'aménager des zones de parking dédiées à ces nouveaux engins, une solution qui apparaît cependant insatisfaisante tant elle remet en question le fonctionnement même de ces appareils en libre service. D'autant qu'on ne peut sérieusement envisager de compartimenter sans fin les rues et les chaussées avec autant de voies que de vitesses et d'usages. Pour répondre à cette nécessité de repenser l'espace, l'agence d'urbanisme de Bordeaux s'est ainsi penchée sur la possibilité de développer des espaces modulables, réversibles, adaptables à l'heure et aux pratiques. On pourrait ainsi utiliser une route pour les transports le jour et la transformer en espace de stationnement la nuit. En réalité, élus et urbanistes continuent de tâtonner pour trouver une solution adaptée à un phénomène encore difficile à cerner. Dans tous les cas, ils expliquent que cette transformation ne se fera pas sans un recul de la voiture, sans un grand remplacement de l'automobile.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Should I stay or should I go, des Clash. Merci beaucoup Anne Conchon et Mathieu Flonneau de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Anne Conchon, je rappelle votre dernier livre, La corvée des grands chemins au XVIIIe siècle, économie d'une institution, paru aux presses universitaires de Rennes. Je citerai aussi cet ouvrage dont vous êtes l'auteur, Mathieu Flonneau, L'automobile au temps des 30 glorieuses, publié aux éditions Loubatière. On se retrouve demain pour une émission consacrée aux fractures sociales et territoriales en France. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.